franceinter.fr.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Il y a 40 ans, la France ouvrière.
Les ouvriers, c'est encore 23% des actifs. Ils sont plus de 6 millions en France et pourtant, on ne les voit plus. On a l'impression qu'ils n'existent plus et ils devraient représenter une force politique et pourtant, on ne s'occupe pas d'eux depuis 30 ans.
23% des actifs, 2% de l'espace médiatique. Le cinéaste Gilles Perret rapproche ces deux chiffres le jour où il sort son film « Mémoire d'ouvrier ». Un 29 février, c'est un jour d'exception. Il faut en effet maintenant un rare concours de circonstances, une campagne présidentielle par exemple, pour que les ouvriers émergent de l'invisibilité. Et encore, on les en fait sortir souvent à leur détriment. C'est qu'ils utilisent un vocabulaire national, avec qui plus est des accents archaïques, autant dire qu'ils parlent ou qu'on leur fait parler une langue qui paraît étrangère aux médias. Il y a encore 40 ans, les ouvriers comptaient davantage chez les actifs, mais ce n'est pas seulement pour cela qu'ils occupaient une place centrale. Pour toute la gauche, et pas seulement pour les communistes, ils constituaient un socle, une légitimité. Pour les catholiques, un horizon. Pour les gaullistes, une conquête. Ils déclenchaient des conflits sans merci à mesure que leurs conditions s'amélioraient. Cette histoire-là garde un sens, comme l'histoire des dominations qui, elles, se portent à merveille. Le fil ne peut en être interrompu si facilement. C'est ce qu'explique Xavier Vignat. Bonjour.
Bonjour.
En même temps que sort le film de mémoire d'ouvriers, sort votre livre, Une histoire des ouvriers en France chez Perrin au XXe siècle. Alors c'est un livre important parce qu'il est constamment original. Vous êtes toujours dans l'hypothèse, le questionnement, jamais dans la nostalgie et dites-vous, jamais dans le bégaiement. Je ne bégaye pas l'histoire traditionnelle du mouvement ouvrier.
Oui, ce que j'ai voulu essayer de faire, c'est non pas une histoire des organisations qui encadraient le monde ouvrier, les organisations syndicales ou politiques, mais plutôt une histoire du quotidien ouvrier, du quotidien au travail et hors du travail, une histoire des expériences ouvrières, et donc pour cela, solliciter largement les autobiographies, par exemple, et puis également quelques archives inédites.
Et nous solliciterons beaucoup de films militants de cette époque, donc fin des années 60, début des années 70, où les ouvriers comptaient encore davantage chez les actifs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, presque un quart, à l'époque, plus du tiers.
Voilà, plus de 37%, ils étaient environ 8 millions. Et ils étaient la principale catégorie socio-professionnelle. Et donc, c'était véritablement un monde numériquement et aussi symboliquement très important.
Avec beaucoup d'immigrés, de plus en plus, le général de Gaulle disait « Attention, hein, les immigrés d'Afrique du Nord
». Alors, des immigrés d'Afrique du Nord, en effet, de plus en plus, mais aussi des Portugais, des Italiens, des Espagnols et également des... Des femmes, il ne faut jamais oublier les femmes, entre 20 et 25% de femmes. Des ouvriers, pas simplement des grandes concentrations industrielles, mais des ouvriers du monde rural également. Et donc un monde extrêmement divers, travaillé par de multiples mouvements d'entrée et de sortie. Entrée parce que, évidemment, c'est une phase de croissance économique et donc l'industrie progresse et donc les usines embauchent. Et des sorties parce que progressivement, certains d'entre eux parviennent à devenir, à accéder à la maîtrise, par exemple, ou technicien, ou passer du côté de la petite entreprise, de l'artisanat. Donc un monde extrêmement mouvant également, nombreux et mouvants, divers. Donc.
Mobilité, bigarrure, dites-vous, il y a à l'époque, alors ça sont les termes complètement oubliés, des manœuvres.
Des manœuvres, des OS, des ouvriers spécialisés, des ouvriers professionnels ou qualifiés. Et puis des contre-maîtres également qu'on intègre à ce moment-là dans le monde ouvrier. Et cette diversité, donc, en termes de classification, correspond également à des diversités générationnelles très importantes. C'est-à-dire qu'on a toujours à la fois des ouvriers adultes, âgés même, et puis des jeunes, parce qu'on rentre dans le monde ouvrier à 13-14 ans. Et cette jeunesse ouvrière-là, elle commence à se former différemment. Elle passe plus de temps à l'école, dans les CET également. Et donc, on a un monde, encore une fois, placé sous le signe de la bigarrure, oui.
Alors, l'idée s'est imposée, dans cette bigarrure, d'une représentation politique prioritaire des ouvriers par le PC et la CGT, qui sont, à l'époque, des Siamois.
Oui, c'est-à-dire que depuis, en gros, le Front populaire, et puis en, à nouveau après la Libération, s'est imposé une espèce d'hégémonie. C'est-à-dire que le Parti communiste et la CGT sont censés incarner le monde ouvrier. Et ils l'incarnent à la fois, évidemment, pour eux-mêmes, mais ils l'incarnent également aux yeux de leurs adversaires. C'est-à-dire que ce sont les deux piliers du monde ouvrier qui sont censés les représenter admirablement. Alors, ce n'est pas complètement faux, parce que près de plus de la moitié même des ouvriers au milieu des années 50 votent pour le Parti communiste. Donc, ça correspond également à un ancrage très important.
On ne va pas dire le score que va faire en 1969 à la présidentielle Jacques Duclos, qui dans sa jeunesse fut ouvrier pâtissier, parce que Jean-Luc Mélenchon en serait furieux. Archives de cette campagne.
Les capitalistes ont en France la liberté d'exploiter. Mais les travailleurs ont-ils les mêmes libertés? Par exemple, la liberté du travail, eh bien, est-ce qu'elle est un fait concret pour le travailleur? Pour le chômeur, par exemple, la liberté du travail est en définitive utilisée bien des fois pour mater les grèves contre les ouvriers qui luttent pour leurs revendications. Mais cette liberté du travail n'est pas accompagnée du droit effectif au travail, lequel est inscrit, c'est vrai, dans la Constitution, mais il n'est qu'inscrit sans aucune espèce d'application pratique.
Le communisme est la seule force organisée en France. Cela reste un espoir pour une large fraction de la classe ouvrière. Cela reste aussi le refuge des mécontents. Mais il faut tout de même noter une chose, c'est que le communisme est beaucoup plus fort comme aiguillon sur la fesse du bœuf capitaliste que comme une idéologie.
C'est un peu de malice. On a glissé, je vous parlais de films militants, systématiquement dans cette émission, dès maintenant et un peu plus tard, des extraits des films du groupe Medvedkine. Groupe Medvedkine.
Alors, le groupe Medvedkine, c'est un groupe formé à l'initiative de cinéastes, notamment Chris Marker, Bruno Muel et quelques autres, qui se sont rendus à Besançon puis à Sochaux pour confier la caméra à des ouvriers afin qu'ils réalisent des films.
Vous voulez dire qu'à côté du Parti communiste, il y a une extrême gauche et le PC est obligé de courir derrière?
Le PC court derrière ou se débrouille avec elle plus ou moins bien et plus ou moins facilement, oui.
Ça fait partie des limites que connaît la contre-société communiste, dont vous dites qu'elle reste flanquée par une gauche socialiste dont le socle, à l'époque, c'est indiscutable, et en grande partie ouvrier, deux cinquièmes des électeurs socialistes à la fin des années 60.
Voilà. Et Besançon, par exemple, puisque vous citez le groupe Medvedkine, Besançon est une ville dirigée par un socialiste, Jean Mingeau. Donc voilà, il y a toute une série de grandes villes ouvrières qui sont dominées par des maires socialistes. Il y a un socialisme municipal important.
Il faudrait parler aussi des catholiques, le syndicat CFTC qui va devenir la CFDT dans ces années, l'Action catholique ouvrière qui prolonge la JOC, célèbre pour son slogan « Un jeune travailleur vaut davantage que tout l'or du monde ». Slogan répété lors de ses rassemblements, ici celui de 67, présidé par le cardinal archevêque de Paris d'alors, Mgr Veuillot.
Tous les jeunes du monde ouvrier connaissent le Christ et entrent dans sa communion d'amour. Que la dignité de tous soit respectée.
C'est le cardinal Pierre Veuillot, archevêque de Paris, qui a dirigé la prière de l'Assemblée.
Venue de partout, une jeunesse en marche, consciente de partager le même idéal, prête à participer à une même action.
Voici venu le
C'est encore une malice, parce que je crois que les rassemblements de la JOC étaient davantage accompagnés par John Littleton, le bluesman, quand ce n'était pas par Jean Ferrat. Vous croyez que ça, c'est une chanson du groupe Medvedkine?
Je ne pense pas, non.
Mais on va laisser les auditeurs deviner, parce qu'on retrouvera, je pense, ces brillants interprètes. Alors, les catholiques, on n'imagine pas aujourd'hui que le recrutement de l'Église et la pratique se sont resserrés dans un milieu beaucoup plus bourgeois, qu'ils avaient un imaginaire ouvrier.
C'est-à-dire que depuis le milieu du XIXe siècle, et encore davantage après la Première Guerre mondiale, l'Église a voulu résorber le fossé qu'elle percevait entre le monde ouvrier et elle. Et donc, elle a développé toute une série d'initiatives pour tenter de combler ce fossé. La JOC en fait partie dès le milieu des années 20. Il y a eu les prêtres ouvriers, ensuite, un mouvement assez ample et où ces prêtres voulaient véritablement et devenaient presque véritablement de vrais ouvriers, se naturalisaient dans le monde ouvrier. Donc, ça a été un mouvement extrêmement important et qui a eu un rôle tout à fait considérable dans un certain nombre de régions, l'Est de la France, mais par exemple également, c'est tout l'Ouest du pays qui a été travaillé par ce mouvement-là. Et c'est un mouvement très, très important.
Alors, les ouvriers dans ces années bénéficient de la légitimité. On peut dire que beaucoup d'ouvriers sont gaullistes, que le gaullisme s'intéresse aussi aux ouvriers, la légitimité socialiste, communiste, catholique, gaulliste. Ils gagnent en prospérité.
Hein, oui. Moins que d'autres, mais ils gagnent en effet, oui.
Et quand il y a un peu plus de prospérité, il y a nécessairement davantage de conflictualité. Alors, avant qu'on ne parle de l'immense mouvement de mai 68, et puisque nous sommes dans le Doubs, vieille terre industrielle et productrice de cinéma, nous sommes à Besançon, précisément à la Rodia Seta, un an avant 68.
Mars 1967, la grande grève dans le vocabulaire Rodia. Grève originale par sa durée, un mois entier, par sa forme, l'occupation d'usines oubliée depuis 1936, mais surtout par cette idée continuellement reprise que le déséquilibre lié aux conditions de travail se traduit par un déséquilibre de toute la vie.
Information de Lyon et pour Thomas, 5 minutes d'arrêt, les copains, groupez-vous. 5 minutes d'arrêt, groupez-vous autour des voitures. Allez, approchez un peu, qu'on crie pas trop.
Quand il y a eu la grève à la Rodia, il y a eu des choses à la télé.
Voyons, ce qui m'a dégoûté, moi, c'est quand on a défilé dans les rues. Alors on était au moins 400 à 500. On est revenu tout de suite pour le soir avec des informations. Ils ont dit qu'on était à peine une cinquantaine.
Ah ben oui.
Alors c'est là vraiment qu'on a vu qui disait des mensonges.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Alors mieux qu'à la télé sur France Inter, les ouvriers aujourd'hui, les ouvriers des années 60-70 avec Xavier Vignat qui vient de publier une histoire des ouvriers en France chez Perrin. Xavier Vignat, on entend là parler d'occupation. L'occupation, ça va être une des marques de l'immense mouvement de mai 68. On n'a jamais connu un mouvement social aussi important. On se souvient davantage du mouvement étudiant, mais...
Oui, mais justement, les grèves ouvrières de mai-juin 68 sont les mouvements les plus importants de tout le XXe siècle, avec environ 3 millions d'ouvriers en grève et effectivement des occupations importantes, marquées notamment au mois de juin par des affrontements sévères. Et puis ça, ça a été complètement oublié, des séquestrations. C'est-à-dire que quand la phase ouvrière commence, autour de la mi-mai, on a dans toute une série d'endroits, à Sud Aviation à Nantes, c'est l'exemple le plus connu, on a un phénomène de séquestration. C'est-à-dire que les ouvriers retiennent le patron ou le cadre pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. À Nantes, c'est quand même 15 jours la séquestration.
Donc, on rigole pas pendant les séquestrations. Tu nous empêchais d'aller aux toilettes, tu vas demander la permission pour aller aux toilettes.
Voilà, c'est-à-dire que les ouvriers profitent de séquestrations pour retourner au patron les contraintes qui sont habituellement les leurs dans le quotidien du travail.
En même temps, le mouvement est régulé, il est très long voilà. Par les délégués.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène complexe de délégation à tous les niveaux, au niveau des usines, au niveau des bassins industriels et puis au niveau national avec les confédérations qui négocient avec les pouvoirs publics et le patronat et qui ont tendance plutôt à modérer ce mouvement et à encourager à la reprise du travail à la fin du mois de mai, au début du mois de juin. Mais ce mouvement s'étire jusqu'en réalité à la fin du mois de juin, voire début juillet dans quelques cas. Donc ça a été un phénomène de modération par les centrales syndicales qui contrastait avec une espèce de volonté d'en découdre d'une bonne partie de la base.
Les centrales syndicales n'avaient pas lancé vraiment de mot d'ordre national. Il n'y avait pas de comité central de grève comme en 1947. Les mots d'ordre venaient de la base et les négociations assurées par les dirigeants des centrales syndicales et du côté du gouvernement par Georges Pompidou et Jacques Chirac notamment, avaient abouti, mais c'était très difficile de faire reprendre le travail.
Voilà, parce qu'en fait, les conditions de reprise ne sont pas très favorables pour les fractions les mieux organisées du monde ouvrier. Les augmentations de salaire sont importantes, certes, mais surtout pour le SMIG et pas pour les autres. Et finalement, ils ont le sentiment d'avoir fait un mouvement très important, un peu pour rien. Et donc, il y a une vraie amertume dans un certain nombre de cas.
Ici, un film militant encore, nous sommes dans la région parisienne.
Dans la matinée du 10 juin 1968, après 3 semaines de grève et occupation d'usines, les ouvriers de Vonder, à Saint-Ouen, réunis par leur patron, ont voté la reprise du travail par 560 voix contre 260. Le jour même, à 13h30.
Ah non, je ne rentrerai pas là-dedans. Là, je ne mettrai plus les pieds dans le ton, là. Vous rentrez ici, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir. Vous... Bien sûr, les belles femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, hein. Pour le vote, ils ont fait des saloperies.
On le sait, on le dénoncera.
Et c'est saboté, le vote, oui. Ils ont fait ça, la saloperie, oui.
C'est une victoire. Avant, il n'y avait rien chez Vonder. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent.
Ça ne sera plus jamais comme avant.
Ce ne sera plus jamais comme avant, murmure le délégué. Il ne sait pas encore que la famille Courtecuisse, c'est son nom, propriétaire de Vonder, sera remplacée plus tard, quel progrès, par Bernard Tapie. C'est un film d'Hervé Leroux. Un moment important de ce film, bouleversant.
Oui, un mouvement particulièrement magnifique de cette ouvrière de chez Vonder qui refuse de rentrer à l'usine en raison des conditions de travail absolument désastreuses qu'elle connaît. Elle dit « on est toutes noires » parce qu'on fabrique des piles chez Vonder, évidemment, et que les ouvrières et les ouvriers immigrés, souvent, manipulent à longueur de journée ces matières-là particulièrement salissantes. Et la scène est absolument magnifique parce qu'on entend à la fois cette révolte de l'ouvrière et en même temps le délégué CGT et le responsable communiste qui tentent de la convaincre de reprendre le travail justement en disant « on le sait, on le dénoncera, c'est une victoire ». Et justement, la vie mais est aussi parfois un peu amère pour ces ouvrières-là.
On s'arrête un instant sur cette phrase, on est noir de haut en bas, parce que la nostalgie des Trente Glorieuses est telle qu'on oublie certains de ses revers.
Voilà, ça c'est très très important d'insister sur la pénibilité qui perdure dans le quotidien ouvrier, dans le travail. Pour de multiples raisons. D'abord parce qu'on a eu une rationalisation accélérée. Et donc, pour les OS, notamment les OS femmes, des industries électrotechniques, téléviseurs, électroménagers, etc., et ben c'est des dizaines de gestes répétitifs par heure. C'est une pression de la maîtrise pour faire respecter les cadences. C'est également, pour les ouvriers immigrés, une exposition à une pénibilité très, très importante. On entendait tout à l'heure les grévistes de la Rodia Ceta, c'est des rythmes de travail très particuliers. Ils étaient en 4-8 parfois, donc c'est-à-dire qu'ils travaillaient parfois 4 nuits d'affilée, puis après ils modifiaient. Bon. Et donc, qui désorganisent à la fois la vie familiale, mais aussi les organismes. Bon. Donc, on a véritablement une difficulté du quotidien ouvrier, du travail ouvrier, et parler des Trente Glorieuses en oubliant complètement ça, c'est totalement oblitérer cette réalité française.
Pourtant, on en savait assez long sur les conséquences de la rationalisation, parce qu'il y avait à l'époque beaucoup d'enquêtes, notamment faites par les milieux catholiques, notamment faites aussi par les établis, les gens d'extrême gauche qui ont choisi la vie ouvrière au lendemain de 1968 et qui racontaient par le menu la vie quotidienne.
Oui, mais cette réalité-là, elle est connue largement à la fois par les sociologues, les militants, les catholiques, etc., mais en même temps, sans qu'il y ait une transformation de réelle ampleur de ce quotidien-là. Et on commence à élargir un tout petit peu, on parle d'élargissement des conditions de travail, de remise en cause du taylorisme, mais en réalité, ce mouvement s'interrompt dès la fin des années 70.
La reprise d'Hervé Leroux, l'héroïne en est, non pas le délégué, mais la femme qui refuse de rentrer. Alors, vous disiez combien était importante la femme dans la vie ouvrière, dans l'usine.
Oui, parce que elles sont au total environ 20-22% du monde ouvrier. Et elles dominent dans toute une série d'industries qui connaissent une large expansion. Évidemment, le textile, la confection, etc. Mais ça, c'est pas tout à fait nouveau. Et je le disais à l'instant, les industries électroménagères, etc. Et dans un certain nombre de branches, qui sont concentrées dans l'ouest du pays, en Normandie également, on va retrouver des usines de montage avec une main-d'œuvre très largement féminine à 90, voire 95%. Et donc cette réalité-là du monde ouvrier, c'est un monde ouvrier qui est féminin. Et ce monde ouvrier féminin, il peine à être reconnu dans les organisations syndicales traditionnelles, qui sont encore largement, si vous me passez l'expression, métallocentrées et viriles.
Et viriles, oui. Alors vous insistez d'ailleurs sur un certain nombre d'aspects conservateurs du mouvement ouvrier, qui par exemple va se méfier de la montée trop importante des immigrés, parce que c'est une concurrence pour le travail, mais c'est aussi une concurrence sexuel.
Oui. C'est-à-dire que, évidemment, c'est le monde ouvrier, il est le confronté le plus, de manière le plus importante, à cette concurrence, à la fois sur le travail et puis sexuel, mais c'est surtout en termes de travail, à ces difficultés-là. Et de fait, existe pendant tout le XXe siècle un courant conservateur dans le monde ouvrier qui refuse d'abord cette concurrence étrangère, mais également le syndicalisme, les femmes, etc.
Mais les femmes ont de la ressource dans l'Ouest, mais aussi dans l'Est. Nous sommes toujours dans le Doubs.
Qu'on est rentré dans la boîte, qu'il a fallu expliquer qu'il fallait s'organiser, tu vois, qu'il fallait élire des délégués du personnel, qu'il fallait créer un comité d'établissement. C'est le côté de la préparation des luttes, quoi, si tu veux. C'est le boulot qu'un militant doit faire tous les jours.
Le coup de la graine nous a beaucoup aidés. Nous avons maintenant 80 personnes qui sont syndiquées.
La vraie première prise de parole, c'est justement, tu vois, c'est là, parce que quand j'ai vu que ça discutait pas mieux que ça, que les gens se sentaient pas mieux concernés, je suis rentrée chez moi, j'ai essayé de faire une espèce de petit truc, et puis le lendemain matin, quand je suis arrivée au boulot, je l'ai montré à des militants de la CGT qui étaient là, qui distribuaient des tracts. Je leur ai montré ce que j'avais l'intention de dire et si c'était ça, quoi, si c'était bon. Alors ils m'ont dit que oui, je pouvais le faire. Alors je suis montée sur le mur et j'ai parlé.
Un vote à bulletin secret a été imposé hier par la direction. Nous ne pouvons pas l'accepter. Ce ne sont pas les patrons ni le gouvernement qui ont demandé aux ouvriers de faire grève. Ce n'est pas non plus eux qui aujourd'hui viendront nous imposer la façon dont nous poursuivrons notre lutte pour faire aboutir nos revendications.
Allez, encore une production du groupe Medvekine. Alors, c'est des gens d'extrême gauche, intellectuels, étudiants, qui viennent dire aux ouvriers, vous c'est nous, soyez avec nous.
Voilà, et qui proposent des films qui enregistrent cette parole ouvrière. Alors, ils viennent tantôt... après, ils vont avoir des itinéraires compliqués, mais c'est parfois le PSU, un tout petit parti dont on reparlera.
Des maoïstes socialistes unifiés.
Voilà, une session de la SFIO. On a des maoïstes, on a des trotskistes. Et on entend comme ça, grâce à leurs films, des voix tout à fait étonnantes. Celle qu'on vient d'entendre, c'est celle de Suzanne Zedet, qui est à ce moment-là employée à la YEMA, donc une usine de montres à Besançon, et qui crée... une section syndicale en même temps qu'elle rentre dans la grève de 68.
Et son mari ?
Son mari, lui, travaille justement à la Rodia Ceta. Et on a un portrait dans ce film absolument magnifique de ce couple.
Quand il y a une grève avec occupation, qu'est-ce qu'on fait les femmes mariées ?
Eh ben, elles ne peuvent pas occuper la nuit parce que, en tout cas, on leur déconseille d'occuper la nuit parce qu'il y a toutes sortes de rumeurs sur leur moralité ou leur prétendue immoralité qui court. Et en fait, on a un partage sexué des rôles qui est encore... à ce moment-là, commun dans les années 68.
Vous citiez le Parti Socialiste Unifié, il siégeait rue Mademoiselle, c'est un nom presque interdit maintenant, mais son secrétaire général était Michel Rocard.
L'autogestion, le contrôle ouvrier pour y parvenir, sont chez nous à l'ordre du jour.
Chaque fois que tu veux ton autogestion, chaque fois tu sais bien ton afro-patron, chaque fois t'entends pas, te prends pour un pion.
Le niveau de développement et l'expérience de liberté, le niveau de culture aussi qu'a atteint la France, nous permet d'espérer passer tout de suite à un socialisme fondé sur l'autogestion.
Parle au patron, ta tête est malade. Parle au patron, ta tête est malade. Oh, oh, oh. Chaque fois que tu veux de l'augmentation, chaque fois qu'on paie pas tes cotisations, chaque fois tu t'en vas parler au patron, au patron. Il ne t'entend pas, ne te comprend pas, il ne te voit pas, ne t'écoute pas. Mon pote ouvrier, le cœur d'ouvrier, je t'entends crier. Parle au patron, ta tête est malade. Parle au patron, ta tête est malade. Oh, oh, oh.
Alors, dans le premier de vos excellents livres, L'insubordination ouvrière dans les années 68, Presse universitaire de Rennes, il y a toute une page qui cite les films militants de ces années-là. Je ne vois pas celui-ci dont on a extrait cette seconde chanson.
Et oui, parce que ce n'est pas un film militant.
Hein. Bah moyen d'avoir des sous. Jean-Yann, mais en tout cas, c'est l'époque, 1972.
Ah oui, mais je pense qu'il y a une dimension ironique qui fait que voilà, ça ne rentre pas dans les films.
C'est l'histoire d'une compagnie, d'une section syndicale qui grandit, s'enrichit et de son leader qui, quand il sortira à la campagne avec une femme féministe, ben, voit jaillir du sol de son jardin du pétrole. C'était avant la crise. Le Chant du Cygne, l'acmé du PSU, le zénith de Michel Rocard. On est toujours dans le Doubs, c'est l'IP.
L'IP vous garantit l'heure exacte au troisième top, exactement 13h. Au troisième top, 13h, l'IP, c'est l'heure.
Besançon, 1973, usine modèle dans le quartier de Palante. Elle a été cédée peu avant par Fred Lippe aux Suisses d'ébauche. Et ça, qui dépose le bilan, les 1300 employés entament une mobilisation qui va étonner la France pendant 3 saisons, multipliant les illégalités, la saisie du stock des montres et les innovations.
Quand on a commencé à manifester en 73, on descendait en ville, il y avait toutes les voitures qui partaient, on klaxonnait, on arrivait en ville, tout le monde regardait, tiens, voilà les LIP. Et nous, on criait, non au démantèlement, non au licenciement. LIP, c'était une vraie ruche où tout le monde travaillait, où tout le monde s'organisait à sa façon. La démocratie, les commissions de travail où tout le monde s'inscrivait, c'était formidable parce que les gens, ils avaient conscience d'être enfin quelque chose dans l'usine. Alors qu'avant, on sentait des numéros à nos établis. C'est tout, tu vois, les gens étaient vraiment heureux de pouvoir participer dans des commissions.
Bon, alors le courrier, le poste téléphonique 361, son commercial, la presse revue de presse 277, il n'y a pas d'ordre du jour dans les sous-commissions. Simplement, vous savez, le travail que vous avez effectué,
L'autogestion, l'action, l'illégalité, et ben pourquoi pas l'illégalité, saisir les stocks de montres. Le général de Gaulle faisait la distinction avec la légitimité et les ouvriers la de reprise. Besançon, ils ont le sentiment de la légitimité, d'autant que le pays les soutient
le pays
en grande
les soutient.
Partie.
Une bonne partie du pays les soutient, ces actions, parce qu'ils ont séquestré, ils ont caché un stock de montres, 60 000 montres, et puis ils ont surtout repris le travail, en tout cas en partie repris le travail, repris la fabrication des montres, alors que ils n'y ont pas le droit, en tout cas en théorie. Et ils le font au nom d'une légitimité supérieure, effectivement, celle de défendre leur emploi, leurs conditions de travail, leur attachement à une région, la Franche-Comté. Et ce qui est tout à fait étonnant et même formidable, il faut employer le terme pour l'IP, c'est cette mobilisation qui est à la fois une mobilisation d'ouvriers, d'employés, mais des cadres également. Et puis, le leader Charles Piaget est lui-même chef d'atelier. Donc, on a pas simplement une mobilisation ouvrière. Et qui canalise toute une bonne partie de l'entreprise, parce qu'on a à la fois des organisations syndicales, la CFDT qui est en pointe, la CGT qui est un peu plus réticente, mais on a également un comité d'action qui rassemble notamment des femmes et des gens qui n'étaient pas syndiqués, qui n'avaient pas l'habitude de prendre la parole et qui... précisément avec ces réunions quotidiennes, ces assemblées générales, ces commissions dont on entendait parler, se mobilisent, se politisent et véritablement impulsent un mouvement qui rayonne dans toute la France.
Formidable, qui fait peur au sens originel du mot. Le gouvernement a eu beaucoup de difficultés avec l'IP et c'est finalement le patronat progressiste, parce que ça peut exister, qui a offert une issue au moins provisoire. À l'époque, on disait que Piaget pourrait être candidat à l'élection présidentielle. Il n'y a plus de leader syndical d'ampleur nationale comparable. Et on nous dit maintenant, c'est un pont aux ânes, que le monde ouvrier a décroché de la gauche et qu'il a rejoint non seulement les rangs de la droite conservatrice, mais ceux de l'extrême droite xénophobe.
Oui, alors ce raccourci est absolument faux. Évidemment qu'il y a des ouvriers qui votent à droite et qui votent à l'extrême droite, mais il y en a toujours eu, je l'ai dit. Et en réalité, un des problèmes, ce n'est pas le refuge dans le vote de droite ou d'extrême droite, c'est l'abstention et l'incapacité d'une partie des organisations traditionnelles du monde ouvrier à nouveau mobiliser ces ouvriers du monde rural, ces ouvriers en proie à des difficultés, menacés par le chômage, et puis surtout les ouvriers du tertiaire, parce que la réalité ouvrière aujourd'hui, c'est surtout les ouvriers du tertiaire.
Invisibilité du monde ouvrier qu'on comprend de moins en moins dans les élites politiques à cause de la dissémination, dites-vous, de l'habitat, de la dissémination des entreprises, oui, de l'évolution des enfants. Aussi, par contre, l'histoire des dominations, elle continue d'être visible et voire éclatante.
Éclatante. Il suffit de penser à la dernière loi sur les retraites qui a complètement oblitéré la pénibilité du travail ouvrier.
Merci à vous, Xavier Vignat, votre histoire des ouvriers en France au XXe siècle chez Perrin, votre insubordination ouvrière dans les années 68 aux presses universitaires de Rennes. L'émission a été préparée par Camille Poux, Jean Lagui avec Frédéric Martin, Franck Olivard, à la réalisation Jacques Sigal et à la technique Alexandre Chenet et Michel Bézikian. Que savons-nous de notre cerveau? Dans quelques instants, dans La Tête au Carré, la démocratie en Grèce, demain dans La Marche de l'Histoire. Il est 14h, vous écoutez France Inter.